a fucking bitch. These are the words that Representative Yoho levied against a congresswoman. The congresswoman that not only represents New York's 14th congressional district, but every congresswoman and every woman in this country. Because all of us have had to deal with this in some form, some way, some shape, at some point in our lives.
Écoute, Raphaël Jacob, j'étais au courant de l'histoire et j'ai fait un saut en attendant les mots, comme tu peux imaginer.
Mais comme bien des gens, je pense, Marie-Claude, parce que ça s'est pas déroulé n'importe où. Ça s'est déroulé en direct, un peu plus tôt aujourd'hui, sur le plancher de la Chambre des représentants des États-Unis. C'est sorti de la bouche d'une élue très en vue, élue démocrate très en vue, Alexandria Ocasio-Cortez de l'État de New York, pour pas la nommer. Elle représente une partie du Bronx et de Queens dans la ville de New York. Et elle a fait le point, Marie-Claude, sur un incident dont, visiblement, tu avais toi-même eu vent, survenu un peu plus tôt cette semaine, au Congrès, quand un de ses collègues, un élu républicain de la Floride, Ted Yoho, pour pas le nommer, l'aurait accosté et traité notamment de « effing bitch ». On a entendu, nous tous, ensemble, tantôt,
l'extrait. La vraie affaire, oui.
La vraie affaire. Monsieur Yoho était flanqué à ce moment-là d'un autre élu républicain, celui-là du Texas, et les deux hommes ont 65 et 70 ans respectivement. Madame Ocasio-Cortez, elle en a 30. Juste d'un point de vue d'optique, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'assez spécial à la base. Et après que ça a été rapporté dans les médias, un peu plus tôt cette semaine, Monsieur Yoho, donc le représentant qui a invectivé Madame Ocasio-Cortez de la sorte, a émis une sorte d'excuse qui n'en est pas vraiment une. Tu sais, Marie-Claude, le genre d'excuse qui commence par « je m'excuse si ».
Ah, les « si ». Non, non, tu connais ma position sur les excuses avec un « si ». Je l'ai souvent dit ici. Là,
je pense qu'on a la même position.
Pas capable. Tu t'excuses, point. Parce que le « si » implique, moi, je pense que je t'ai rien dit, mais si toi, tu te sens insulté, ben regarde, je m'excuse.
Ben, en fait, c'est exactement ça que l'élu en question a dit. Il a dit qu'il n'avait pas dit ça, mais que si ça avait été compris comme ça, ben, il s'en excusait.
Aïe, aïe, aïe. Mais il y avait un témoin, donc ils étaient deux.
Exact.
Puis l'autre a vu son ami?
L'autre se fait visiblement assez discret depuis les 48 dernières heures. Yoho, donc, a ajouté que, un petit peu comme pour se défendre, qu'il y avait une femme et deux filles, comme si ça lui donnait une espèce d'aura de crédibilité. Tu sais. Disons qu'Ocasio-Cortez ne l'a pas vraiment toléré, celle-là, et elle a répliqué donc dans son discours sur le plancher de la Chambre aujourd'hui que ce n'est pas le fait d'être marié qui donne de la décence à un homme, c'est plutôt sa façon de traiter autrui avec respect. Je pense que ça en a dit assez long. Et après coup, elle a laissé le plancher à plusieurs de ses collègues, presque toutes des femmes, qui sont à leur tour venues partager des histoires semblables qu'elles disent elles-mêmes avoir vécues. Et là, je voulais ouvrir avec ça, Marie-Claude, pas tant à cause de l'anecdote en tant que telle.
Oh, c'est plus qu'anecdotique, hein, quand même.
C'est exactement ouais, ça. Ouais. Parce que c'est plus qu'anecdotique. Avant d'aller plus loin, peut-être deux bémols quand même, je pense, qui sont importants à admettre. Le premier, c'est que c'est vrai que les politiciens, surtout les politiciens américains, sont pas toujours courtois les uns envers les autres, incluant dans les offices gouvernementaux. J'ai un souvenir très clair de 2004, quand Dick Cheney, qui était le vice-président, était allé sur le plancher du Sénat et avait lancé un sénateur démocrate, et je le cite, « fuck yourself ». Okay? C'est ça, c'était la citation exacte. Et j'ajouterai aussi le deuxième bémol suivant, c'est-à-dire que Alexandria Ocasio-Cortez, elle a un côté polémiste qui est évident, et je t'ajouterais qu'elle est à certains égards assez mal placée pour jouer à la police du langage. C'est la même personne qui, l'été dernier, comparait implicitement les camps américains de détention d'immigrants clandestins à des camps de concentration nazis. Fait il y a ça, je pense, comme bémol à mettre. Mais une fois que c'est mis, il y a vraiment, je crois, en même temps, matière à réflexion collective. Parce que comme elle l'a dit dans son discours d'aujourd'hui, évidemment, on ne peut pas le faire jouer là intégralement, mais un autre moment clé du discours, c'est lorsqu'elle a dit que ce n'était pas simplement, comme tu l'as dit toi-même aussi, Marie-Claude, anecdotique. C'était un problème culturel. Et qu'on ne prend peut-être pas pleine mesure de comment on traite les femmes, comment on voit les femmes, et que tout ça passe aussi par comment on parle aux femmes. Et sur une note personnelle, écoute, c'est pas ma job là, ou ma position d'aller m'injecter dans tout ce qui touche là, la vague de dénonciation, d'abus, d'agression sexuelle, ce que j'en pense. Mais ce que je peux dire, encore une fois, très personnellement, c'est que j'ai 36 ans et dans les dernières années, même dans les dernières semaines, ça m'est arrivé à plus d'une reprise là, de carrément tomber des nues en entendant des témoignages de femmes que je connais de près, de loin, par rapport aux abus qu'elles ont vécu personnellement. Aux mains d'hommes, soit dit en passant, pour qui, ben écoute, ça avait juste pas l'air si grave que ça. Et on parle aussi, évidemment, à chaque fois qu'il y a une femme qui se retrouve violée, assassinée, de la tragédie de cette histoire-là. Mais évidemment, ça, c'est l'exception. C'est l'expression la plus extrême de la violence.
Et du non-respect.
Mais c'est pas parce que c'est l'expression la plus extrême que c'est la seule expression dont on devrait peut-être prendre conscience, parce que ça se limite pas à ça, l'abus et la violence contre les femmes. Et évidemment, ça revient pas à dire que parce que vous utilisez des propos sexistes contre quelqu'un, vous allez finir par l'assassiner. Mais ça se peut quand même qu'on ait un sérieux examen de conscience collective à continuer à faire là-dessus.
Oui, puis pour conclure sur ce sujet, je te dirais que de toute façon, d'avoir des propos respectueux envers les autres, ça ne peut que faire évoluer la société, point à la ligne, faire de nous de meilleurs humains, traiter les autres comme on veut se faire traiter. T'sais, c'est toutes des vieilles histoires, des vieux clichés, mais ça fonctionne encore en 2020, le respect.
Comme quoi? Jésus avait raison, au moins, sur certains points, hein, Marc-Claude.
Je n'osais pas le citer.
Non, mais soyons sérieux, c'est vrai pareil. Oui. Tu le dis toi-même, c'est très simple, mais c'est tellement vrai. Et il y a une composante sociale, mais quand on se parle de la haine politique spécifiquement, écoute, ça fait des mois, pour pas dire des années, que toi et moi, on se parle en onde du climat toxique politique aux États-Unis.
Oui.
On s'entend-tu que...
Et qui peut l'être ici aussi, parfois.
Absolument.
Oui.
Mais juste faire baisser peut-être le niveau de température en utilisant ne serait-ce qu'un langage courtois. Est-ce que ça va régler tous les différends? Non. Et en même temps, c'est sain qu'il continue à y avoir des différends dans une démocratie.
Mais aussi, ce genre d'insulte, ce qu'on a joué en tout début de chronique, là, ça dénote aussi un grand manque de vocabulaire. Là. Si tu es obligé d'avoir recours à ce genre de mots-là pour parler à une femme ou à un homme, c'est-à-dire de dire à quelqu'un d'utiliser ce mot-là dans des endroits comme ça où normalement on devrait s'exprimer avec élégance et dignité, ben je pense que ça dénote un manque de culture, puis un manque de manière, puis un manque de vocabulaire.
Bon, c'est bien noté.
C'était mon éditorial du jour. Maintenant, nouvelle vague de tensions diplomatiques entre Pékin et Washington. Et puis, dans ce contexte, Trump a parlé à Poutine aujourd'hui. Ils se sont même donné la main. Ça m'inquiète. Ils ne sont pas supposés se toucher.
Ouais. Mais tu sais que Donald Trump a continué très, très longtemps après le début de la pandémie à donner la main.
Tout à fait. Pas de masque.
Effectivement, pas de masque. Donc, il y a ça. Mais écoute, au-delà de la question de la pandémie, c'est parce que là, ça implique plusieurs joueurs. Parce que à la base, il y a des tension très, très vive entre Pékin et Washington depuis un bon bout de temps. Ne serait-ce que depuis le début de la semaine, écoute, c'est majeur. On n'a pas eu la chance à date de s'en parler, toi et moi, là, mais le gouvernement américain a forcé la Chine à fermer son consulat à Houston. Là, en même temps, un peu plus tard cette semaine, on a appris qu'il y avait des nouvelles allégations comme quoi le consulat chinois dans une autre ville américaine, San Francisco pour pas la nommer, serait en train de cacher activement un fugitif chinois accusé de fraude par les autorités américaines et qui aurait des connexions avec l'armée chinoise.
Hmm.
Le gouvernement chinois, lui, de son côté, accuse carrément le gouvernement américain de gangstérisme. Donc, écoute, t'as ça en trame de fond, là. Et là, t'as Donald Trump qui est allé s'entretenir dans les dernières heures avec son homologue russe, M. Poutine, pour notamment évoquer la possibilité de collaborer...
Contrôle des armes, oui.
Exactement. Un traité de contrôle des armes qui impliquerait les États-Unis, la Russie et la Chine.
Bonne chance pour convaincre les Chinois.
Ben, bonne chance, mais c'est un petit peu pour ça, je pense, qu'on veut peut-être utiliser Vladimir Poutine, qui est vu, je pense, en bonne partie à raison comme un grand allié de la Chine depuis quand même un assez bon bout de temps. Mais est-ce que ça va être assez?
J'aime comment tu dis on veut utiliser Poutine, alors qu'on sait très bien qu'en principe, c'est Poutine qui utilise Trump. Mais bon, regarde, écoute, je pense que tu as joué avec les mots ici, tout simplement. Il nous reste 30 secondes. Juste souligner un moment très, très important qui était très beau entre Joe Biden et Barack Obama.
Oui, eux, Marc-Claude, contrairement à Donald Trump et Vladimir Poutine, ne se sont pas donné la main, mais ont tenu une espèce de petit rallye virtuel ensemble. C'était assez cute pour ceux qui fallait aller voir ça.
Oui, tout à fait. Ça faisait du bien. En effet. Merci beaucoup, Raphaël Jacob. Je te dis à demain. Je te souhaite une très belle soirée. Après la pause, on va essayer de refaire toute l'histoire et les conséquences de l'affaire Uni à Ottawa. Restez avec nous. On s'en va maintenant aux nouvelles.